Être entrepreneur, c'est être confronté au sentiment de solitude. Est-ce un frein, une liberté, une angoisse ou un challenge ?
Tout seul.
Toute seule.
Tout seul, oui.
Toute seule.
Tout seul.
Toute seule.
Toute seule.
Avec Tout seul, un des podcasts d'Orange pour les pros, nous rencontrons partout en France des entrepreneurs qui vous partagent leur expérience, leur histoire. Emoko et Domoko. Non, il ne s'agit pas de mystérieuses divinités grecques, mais du nom des deux entreprises créées par Fabien Maire à Nantes. Pourtant, l'entrepreneuriat n'était pas dans ses plans. Avant de se lancer, Fabien multiplie les jobs. Responsable du rayon menuiserie d'une grande enseigne, chargé de marketing dans une entreprise d'outillage, c'est lors de la rénovation réussie de sa maison nantaise et à la naissance de son premier fils en 2013 que Fabien a le déclic. Il ose monter une première boîte d'assistance de maîtrise d'ouvrage, puis une deuxième de conception 3D, toujours dans le secteur de l'immobilier. Chez lui, au calme, Fabien nous raconte sans angélisme ni langue de bois sa trajectoire d'entrepreneur.
Bonjour Fabien, merci de nous recevoir aujourd'hui dans ton jardin à Nantes. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter brièvement ?
Oui, je suis Fabien Maire. J'habite Nantes depuis 12 ans maintenant. J'ai vécu quelques années à Paris, je suis originaire d'Alsace, où j'ai fait mes études en télécom, réseau et après gestion des entreprises. Et après ça, j'ai travaillé dans différentes structures telles que la GSB, un industriel de l'électroportatif. Et après, je suis arrivé à Nantes dans une société une start-up dans l'économie d'énergie pour le bâtiment.
Qu'est-ce qui t'a déplu finalement dans cette vie de salariat ?
Alors de base, je suis quelqu'un qui aime bien la liberté et effectivement, le côté entreprise, je me sentais un petit peu cloisonné ou pas forcément toujours en phase avec ce qu'on attendait de moi. Et c'est vrai que je pense que depuis toujours, j'avais l'idée qu'il fallait que je sois un minima indépendant. Il y avait peu de chances que je fasse toute ma vie comme salarié. J'en ai eu plusieurs, des faux départs. Ben là, chaque fois, toutes les entreprises dans lesquelles j'ai été salarié, en général, ça durait 3 ans et après, je changeais. Et chaque fois, c'était de se dire, avant que je trouve la nouvelle entreprise, peut-être qu'il faudrait que je me lance là. Alors à chaque fois, c'est toujours pareil, se lancer c'est beau à dire, mais il faut effectivement l'idée, les moyens, les compétences, il y a plein de choses à réunir pour créer une entreprise.
Et notamment, c'est en rénovant ta maison que t'es venue l'idée de ta première boîte.
Alors oui, oui, c'était en brainstorming avec mon épouse effectivement. Lorsque, avec mon épouse, on a voulu quitter Paris, effectivement, l'idée de créer une entreprise à Nantes est venue. Sauf que débarquer dans un territoire inconnu en créant une entreprise, c'est quand même assez compliqué parce que malgré tout, il faut avoir les réseaux et encore plus quand on n'est pas à Paris, sont hyper, hyper importants. En fait, on a rénové notre maison et on a eu notre premier enfant l'année d'après. Et le fait d'avoir un enfant, en fait, avant je me déplaçais beaucoup dans toute la France et ça devenait compliqué avec un enfant en bas âge, puisque ma épouse se déplaçait aussi beaucoup. Du coup, là, c'était un déclencheur. Et en réfléchissant, c'est vrai que je n'avais pas vraiment d'études dans le monde du bâtiment proprement parlé. J'avais travaillé pendant 10 ans dans ce milieu-là, à différentes activités qui étaient assez complémentaires. Et j'avais géré totalement la rénovation, qui était une rénovation majeure avec une extension en plus de la maison. Et ça s'est très très bien passé avec un résultat qui était a priori, m'a-t-on dit plutôt, de qualité. Donc oui, ça a été un élément déclencheur.
Comme tu me l'as raconté, ta première entreprise s'appelle Domoko et c'était de la maîtrise d'ouvrage.
C'était de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, pour être précis. Parce qu'effectivement, là, on rentre dans du jargon technique. La maîtrise d'ouvrage étant en gros le donneur d'ordre, c'est-à-dire dans le cadre de logement résidentiel, c'est le propriétaire du bien qui est le maître d'ouvrage. Et donc l'assistance à maîtrise d'ouvrage revient à l'assister. En fait, en développant cette première société Domoco, dont l'objectif était quand même d'accompagner les gens dans leur rénovation, parce que beaucoup de personnes se lancent dans la rénovation en contactant des artisans, sans vraiment un projet défini, et finalement se retrouvent après avec une incompréhension entre les devis et finalement ce qu'il est nécessaire de faire, et ça crée des plus-values, et finalement ça crée beaucoup de frustration. Donc l'idée, c'est d'accompagner les gens de base, hein, et puis qu'ils prennent souvent peu d'architectes, l'architecte n'est pas forcément adapté sur des rénovations du quotidien, enfin on ne parle pas de rénovation de villa de 500 mètres carrés, ça concerne quand même peu de gens ça, et en fait c'est déjà de structurer le projet, de bien définir ce qui est attendu, de travailler sur le budget, de mettre en face du budget des faisabilités, parce que souvent bah, c'est compliqué hein, même dans la rénovation de s'imaginer le coût de certains travaux, donc c'est vraiment ce travail là.
Comment tu as ressenti ce premier démarrage ?
Clairement, ça n'a pas été si simple, parce qu'en France, il faut cocher les cases. Et bien entendu, je n'avais pas de diplôme de la profession que je voulais exercer, ni d'expérience vraiment précise de cela. Je t'entends une expérience professionnelle de salarié. Donc ça a été un peu compliqué de trouver une assurance, donc ça a été un stress. Après, il a fallu compléter mes connaissances, bon ça, il n'y a pas eu trop de problèmes. Le fait de se lancer est assez enthousiasmant. Effectivement, j'avais fait une rupture conventionnelle, et là, le système français, c'est intéressant. C'est vrai que j'avais un peu de visibilité, donc ça, c'était très bien. Et après, assez vite, j'ai eu des premiers contacts par réseau qui m'ont confié leur rénovation. Alors, j'ai appris. Alors, ça a été les premiers, hein, donc il y a un peu toujours un petit peu de choses à améliorer. Mais ça s'est assez vite développé, et assez vite, un chantier en a amené un autre. Ça a décollé, et finalement... Au bout d'un an, on sentait que ça allait, ça marchait. Donc, ça a plutôt été assez rassurant. Alors, toujours avec un stress, hein, qui est un stress éteint de l'entrepreneur, c'est la visibilité. Au début, on ne voit pas trop. Après, il m'a fallu, quand même, pour avoir un salaire confortable, il a fallu quelques années pour être sûr de pouvoir se payer ce même salaire tous les mois. Il y a des mois où on ne paye pas forcément parce qu'il y a du retard ou X ou Y, il y a toujours des problèmes. Donc ça reste toujours un sujet pour l'entrepreneur, et que ce soit en individuel comme, je pense, toute taille d'entreprise, en fait. Quoi.
D'accord. Donc, tu es finalement un élément super important pour toi. Ça a été aussi le bouche à oreille, le réseau, qui t'a permis, ne connaissant pas forcément beaucoup de monde et n'ayant pas une expérience très large sur ce secteur, ça t'a permis de gagner en assurance, de te faire connaître. Donc ça, c'est déjà un élément super important. Et deuxième élément important, le soutien de tes proches.
Ah bah clairement, s'il n'y a pas de soutien des proches, ça ne marche pas. Et c'est beaucoup de stress. Au début, j'étais extrêmement stressé, avec des coups de gueule. Il faut comprendre. Enfin, il y a une certaine maturité qu'on acquiert avec le temps. Au début, on est quand même sanguin. On est toujours un peu sur le besoin de prouver. Et si derrière, les proches ne sont pas là pour soutenir... ça fonctionne pas, on est en doute, et là ça peut vite, vite capoter. Ingrid, donc compagne, épouse, est importante et on partage pas mal de choses. Elle subit aussi pas mal de choses. Je vous remercie. Donc oui, il y a un part important de la compagne ou du compagnon.
Et c'est lors de cette première expérience avec Domoco que t'es venue l'idée d'une deuxième société. Est-ce que tu peux m'en parler ?
Très vite, j'ai constaté qu'il y avait un autre frein, un autre stress pour les personnes qui veulent faire des travaux de rénovation, c'est la lecture d'un plan. Qui déjà, souvent, bah, on a souvent des couples hein, dans ce genre de projet, et l'appréhension du plan n'est pas du tout la même entre monsieur et madame. Et c'est vrai que là, moi je travaillais en 3D, mais sur la conception. Et c'est vrai que là, très vite, on voit qu'une 3D, bah, ça permet de rassurer et de se mettre d'accord, parce que tout le monde voit la même chose sur une 3D, en fait. Parce qu'il y a une notion de volume, et ça permet de rassurer et de lever beaucoup de freins. En réfléchissant un peu, je dis, bah, ça serait tellement bien si les 3D que je fais sur mes logiciels de conception, je pouvais les mettre sur le web et que mes clients les regardent tranquillement chez eux le week-end, me valident les volumes, valident certains points, fassent des commentaires, et moi, je retravaille ça. Et quand... on fait le rendez-vous pour avancer, eh bien, on arrive sur des problématiques de décision et non pas d'explication. Parce qu'en fait, dans les projets immobiliers, souvent, il y a beaucoup de temps à passer sur la définition du projet. À un moment donné, ça devient des réunions où tout le monde s'énerve, à la fin, tout le monde est rouge. Et finalement, on dit oui, oui, et en fait, c'est des oui qui ne sont pas des oui. Et il faut revenir dessus parce que c'est pas validé. C'est le principe de la réunion, hein, ça, quand on est à plus d'une heure, une heure et demie, après, ça devient inefficace. Et donc voilà, donc l'idée, ça a été ça. Et en fait, en ayant identifié ce besoin, j'ai cherché des solutions sur le marché. Je n'ai pas trouvé. Après, j'ai fait le tour d'organismes locaux ici, dans le Pays de la Loire, qui étaient spécialisés dans la 3D, qui m'ont dit, eh ben, y a un vrai sujet autour de ça. Vous avez une expérience dans l'immobilier, dans le bâtiment. Vous avez un passé dans la technique. Peut-être un sujet à creuser. Il y a des aides aujourd'hui. Et en fait, de cette idée, c'est devenu un projet. Et puis de ce projet, c'est devenu une entreprise en fait, une deuxième, en me disant bah oui, finalement ça a l'air marrant, ça a l'air, y a un vrai besoin, il y a quelque chose à faire, allons-y. Donc je suis parti avec un peu de subvention, pas beaucoup d'argent et beaucoup d'enthousiasme. Et puis quand on a fait une première entreprise, enfin une deuxième finalement, c'est plus si inatteignable. Alors Imoco, ça crée, c'est une plateforme pour créer des expériences 3D pour l'immobilier, pour faciliter les ventes de projets immobiliers. L'idée, c'est quoi ? C'est de se dire qu'aujourd'hui, il faut des outils de projection pour tout projet immobilier. Ça passe par la 3D. L'idée, c'est d'immerger finalement le non-sachant, le client, le prospect, le décideur dans un bâtiment. En l'occurrence, on est plutôt sur le logement et de pouvoir y avoir de l'information interactive. Et éventuellement de le personnaliser, configurer. Concrètement, ça veut dire qu'on va intervenir pour, par exemple, la promotion immobilière sur la vente sur plan. Vente sur plan, bah, par définition, c'est un plan. Là, nous, on va mettre une 3D dans laquelle on va pouvoir se promener. Mais avant cela, parce que c'est un peu comme un appartement existant. Si vous voulez l'acheter, vous ne commencez pas par aller le visiter. Vous commencez par voir une photo de l'appartement, éventuellement un petit film de présentation, visite virtuelle. Voilà, nous, on va pouvoir créer tout un tas d'outils d'imagerie, qu'elles soient fixes comme d'image de synthèse, dynamiques comme du film, ou interactives comme la 3D. Et c'est là où on a créé une spécialité et on a mis une techno, c'est que cette 3D peut être très longue et très lourde à créer, donc très chère. Donc à partir du moment où c'est très cher, on n'arrive pas à avoir à le proposer pour chaque logement. Nous, on a créé tout un tas d'intelligences pour que ça puisse se produire très rapidement. Qu'on va pouvoir diffuser sur le web, partager sur le web grâce à la plateforme Imoco et créer depuis celle-là, des films, des images pour nos clients. Oui, alors nous, encore une fois, on fait de l'imagerie, de la 3D dite temps réel pour l'immobilier avec des expériences derrière. Donc une image très haute def, c'est comme une photo de très haute définition. Pour qu'elle charge, il faut du débit. Tout ça, c'est important. Et d'ailleurs, moi, j'ai vu l'évolution entre 2017 et aujourd'hui, l'apparition de la 5G, ça a changé pas mal de choses pour nous. Les équipements qui deviennent aussi mieux équipés en GPU, donc carte graphique, hyper important pour nous. Réseau stable et performant. Déjà, quand on a ça, c'est bien. L'idée, c'est de rassurer, de mettre tout ça dans une démarche positive, quoi. C'est-à-dire que malgré tout, il y a des stats, 50% des clients, des promoteurs trouvent que la communication est trop administrative. C'est vraiment, ils ne sont pas contents. 70% des gens ont d'appréhension pour un projet immobilier. C'est dommage.
Et donc, que ce soit pour Imoco ou Domoco, est-ce qu'à un moment, tu as pensé à t'associer ? Est-ce que c'était une problématique qui t'a traversé l'esprit ?
Sur Domoco, non, mais après, effectivement, sur Imoco, c'est quelque chose qui m'a traversé plus que l'esprit. Après, ça se fait pas. C'est un peu comme un couple, c'est des rencontres. Là, l'idée, moi, je l'avais eue un peu dans mon coin. Alors, avec mon beau-frère, pour rien de cacher, qui avait vécu avec nous quelques temps et qui était dans le digital, et qui m'avait dit, ben, ça, il y a vraiment un sujet à faire là. Donc, je me dis, peut-être que ça pourrait le faire tous les deux. Finalement, pas du tout. Et après, quand on a une idée, c'est compliqué. c'est compliqué. C'est pas compliqué, c'est qu'il faut avoir l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui rentre dans cette idée ou qui soit avait une idée similaire. Et j'en ai rencontré, hein, mais ça n'a jamais matché pour X ou Y raison. Alors, pour le coup, la solitude du dirigeant, c'est des choses qu'on connaît, qu'on connaît dans le monde de l'entreprise. C'est véritable, c'est qu'à un moment donné, c'est le capitaine qui est seul à la barre, quoi. Parce qu'on doute en permanence. Parce que oui, parce qu'on a une idée, en fait, sur une boîte innovante comme Emoco. Autant sur Domoco, bon, on est sur des métriques, c'est un peu connu. C'est-à-dire que oui, bah, il y a Nantes, il y avait beaucoup de travaux de rénovation, là encore. Bon, a priori, si on n'est pas trop manchot, on devrait tirer son épingle du jeu. Sur Emoco, il y a des contraintes techniques. Et du coup, même si on a la vision de ce qu'on veut que le produit fasse ou que l'entreprise fasse, bah, c'est pas toujours possible. Et là, c'est vrai qu'il faut échanger, savoir se mettre en question, savoir trouver des parades. Et seul, c'est pas évident. Quand il y a aussi des fins de mois compliquées, des financements à trouver, c'est pas évident. Quand il faut aller voir des clients, des investisseurs, vous êtes seul sur un client, et là, sur des clients qui sont des entreprises, puisque c'est du B2B, Emoco. Ou vous êtes sur des, dans le cas là présent, des gros promoteurs, un petit peu, vous êtes tout seul avec votre projet, c'est pas évident. Le débrief, il est pas simple. Parce que débriefer avec soi-même, c'est pas forcément. C'est constructif, ça peut faire une introspection, mais ça permet pas forcément de. À plusieurs, on va plus loin, quoi, clairement, quoi. Et c'est vrai que c'est un sujet qui s'est posé tout le temps et qui se pose encore. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est tout à fait ouvert à ce que quelqu'un devienne associé d'une façon ou d'une autre. Bon, après, effectivement, question de rencontre, d'opportunité, de fit.
Domoco, ça, comme tu me disais, ça roule plutôt tout seul et très bien. Emoco, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que tu as parfois pensé à arrêter ou te dire « Bon, j'ai essayé pendant un certain nombre d'années, ça ne va pas forcément aussi vite que je le souhaiterais, il est peut-être temps de passer à autre chose ou jamais, parce que tu y crois et que tu dis ça va marcher ?»
Alors oui, j'y crois parce que ça a marché et j'y crois encore. On a des périodes de doute, des périodes où quand on arrive fin du mois, on ne peut pas payer les salaires, c'est quand même très très dur. Parce que se pas se payer, c'est déjà pas simple, mais ne pas payer les personnes qui bossent pour vous ou les payer le 10 du mois suivant, c'est quand même un gros gros coup de pression. Donc oui, penser tout laisser tomber et aller élever des chefs dans l'Arzac, ça arrive encore, si je puis parler comme ça. Mais non, en fait, on croit à son projet et finalement, j'ai eu des périodes sur Emoco. C'était après 2021, été 2021, où on avait, après le Covid, on avait bien réussi à avoir des clients et on a eu un problème technique qui a tout planté pendant 6 mois. Et du coup, on n'a pas pu livrer les premiers clients qu'on consignait. Donc, ça a créé une insatisfaction, même si derrière, on a fini par les livrer et que bon, ils ont compris, mais derrière, ils n'ont pas reconnu tout de suite. Et problème de trésor. Et là c'était, de toute façon, c'est terminé. Et au final, ça rebondit. Donc, j'avais dit à Ingrid, de toute façon, fin de l'année, si je ne trouve pas de solution, là, on plie le truc, ça ne sert à rien. J'étais en limite burn-out, hein, clairement. Et c'est là que j'ai pu rencontrer des premiers investisseurs dans notre première discussion, avoir des retours de nouveaux clients. Et finalement, ça a complètement relancé la machine. Et je dirais, ça, c'est presque la beauté de l'entrepreneuriat. C'est qu'en fait, on entend aussi des fois des émissions ou certaines personnes intervenir dans certains médias. On est très loin de la vérité de ce qu'est l'entrepreneur au quotidien, l'entrepreneuriat au quotidien. C'est-à-dire, quand on investit, moi, ils ont investi quand même, ils ont investi sur ma petite tête, quoi. Il y a un risque quand même, quoi. Et dans le business angel, ce genre de choses, il y a quand même, il y a quand même beaucoup de pertes, en fait. Il n'y a pas que des gains, quoi. Donc, il y a une prise de risque. Et il y a une volonté de faire confiance à d'autres comme nous on a pu bénéficier avant, quoi. Et ça, c'est intéressant, je trouve, dans l'entrepreneuriat.
Est-ce que tu t'es senti soutenu par tes salariés lors des moments difficiles que vous avez pu traverser avec tes boîtes ?
C'est important aussi d'être transparent là-dessus. J'aurais expliqué la situation. Le projet, alors, en fait, sur un sujet comme Emoco, hein, les salariés sont aussi partie prenante du projet. C'est-à-dire que les premiers salariés étaient des personnes techniques, donc des développeurs spécialisés en 3D, qui étaient aussi animés par le côté c'est impossible, mais on va quand même le faire, quoi.
L'aventure.
L'aventure. Il y a un côté aventurier, même si c'est pas les aventuriers à certaines limites, mais c'est eux, ils sont aussi portés par le projet, par le fait qu'on va y arriver. Moi, je pense que le dirigeant a forcément aussi un rôle là-dedans, dans ce qu'il véhicule comme, comme dynamisme et comme énergie. Mais oui, ils sont, ils ont été franchement, enfin vraiment, je leur remercie, ils ont accepté. Et puis ils m'ont dit, bah, je fais, voilà, quand est-ce que c'est la dernière limite, au pire que je peux te payer, je me débrouillerai. Donc après, il faut trouver de l'argent. Hein, donc ça va être, je me débrouillerai pour que tu sois payé au plus tard que tu puisses. Mais si on peut décaler un maximum, moi, ça me va. Et ils ont toujours à chaque fois joué le jeu. Et ça a été très transparent et très bienveillant. Et s'il n'y a pas ça, bah, s'il n'y a pas ça, ça sert à rien. Quoi.
Quelle est ta vision du management? Comment l'appliques-tu au quotidien?
Les salariés d'entreprise, dans mon cas, ont des compétences que je n'ai pas. Ce sont des domaines d'expertise que je n'ai pas. Et moi personnellement, mais c'est voilà, hein, je privilégie la forte indépendance de chacun, l'autonomie. Et en fait, ils sont un peu entrepreneurs dans l'entreprise. Voilà, donc c'est comme ça qu'on essaie d'avancer. Alors c'est pas évident. Hein, moi, quand je dois comprendre que je veux une fonctionnalité à telle date et qu'on m'explique que bah non, ce ne sera pas telle date, et je dis bah ouais, mais on a un sujet parce que c'est important. Bon, bah, il y a des petits débats, parfois même des frictions, et il faut qu'on arrive à se mettre d'accord, quoi. Mais ouais, l'idée, c'est de toute façon, il faut faire confiance à un moment donné, et c'est d'avoir de la confiance et d'essayer d'accompagner comme on peut, même sur les compétences qu'on n'a pas, qu'est-ce qui bloque, comment on peut aller plus vite, est-ce qu'il faut une ressource en plus, est-ce que ça a le problème, enfin voilà, essayer de savoir où est le problème pour y apporter une réponse, que ce soit d'ordre ressources, d'ordre technique, d'ordre, ça peut être des différents ordres, et voilà, et après il faut faire un peu confiance aux gens aussi.
Un truc qu'on dit beaucoup au sujet des entrepreneurs, c'est qu'ils ont du mal à faire la part des choses entre leur vie pro et leur vie perso. Quelle place tes boîtes prennent-elles dans ta vie?
En fait, c'est 85% du temps de cerveau, en fait. Donc, en fait, ça, c'est toujours en train de turbiner quelque part le sujet. Ça, c'est un vrai sujet de savoir breaker, notamment quand on est avec les enfants, d'être 100% avec les enfants et pas 60% avec les enfants et 40% en train de penser à des choses liées à la boîte. C'est très compliqué. Il y a un côté, alors je pense qu'il y a un côté un peu multitâche. En fait, il y a toujours une partie de cerveau qui tourne en pensant à des sujets de problématiques de boîte, que ce soit de la vision, que ce soit des sujets de marché, de, voilà, c'est-à-dire à remettre les... Donc il y a toujours un peu ça. C'est pas simple de breaker vraiment et de se dire, moi, quand je rentre chez moi, j'ai pas fini, mais c'est pas fini, en fait, c'est fini, oui, parce que je suis pas en train de bosser tout le temps quand je suis chez moi, mais je suis tout le temps en train de cogiter autour des boîtes, ouais. Et après, moi, ce qui m'a intéressé, c'est le côté, effectivement, ce qui est génial, c'est que c'est très riche, c'est qu'on fait plein de choses. Enfin, si on n'aime pas la polyvalence et qu'on aime... Si on n'aime pas la polyvalence, qu'on n'aime pas le risque... et qu'on ne sait pas gérer son temps, c'est compliqué. Hein. Alors, j'y arrive maintenant, mais c'est vrai, de dire, impression, au début, c'était vraiment, tout va se casser la figure. Maintenant, avec un peu de temps, j'ai trouvé une solution, ça va s'arranger. Il y a toujours une solution. En fait, l'entreprise que ça m'a appris maintenant, ça fait quasiment 10 ans, quoi, c'est que tout est possible quand on y met l'énergie. Quoi.
Merci beaucoup, Fabien, pour ce moment.
Super moment, merci.
Bonne continuation à Fabien Maire. Merci d'avoir écouté Tout Seul, un podcast d'Orange pour les pros.